VOA. 15h ici à Washington DC, 19h en temps universel. Merci d'écouter la voix de l'Amérique. À ce micro, Mouhamadou Koumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Au Niger, au moins 15 personnes sont mortes vendredi suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la capitale économique Maradi, a annoncé ce dimanche le gouverneur de la région du même nom. Nous avons enregistré 15 pertes en vies humaines. Nous avons également enregistré des blessés et des dégâts matériels très importants, a déclaré le gouverneur et officier de police Issoufou Mahaman à la télévision publique Télé-Sahel. Maradi est la région la plus affectée par les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. En moins de 3 mois dans tout le pays, les inondations liées à la saison des pluies ont fait 217 morts, 200 blessés et plus de 350 000 sinistrés selon un dernier bilan du gouvernement publié le 22 août. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accusé samedi son homologue israélien Benjamin Netanyahou de poursuivre la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir dépend de cette guerre, dont la survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays, a déclaré M. Sonko au cours du rassemblement de quelques centaines de personnes en soutien aux Palestiniens à la Grande Mosquée de Dakar. Il faut rassembler tout ce qui dénonce cette injustice, travailler à une solution politique qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, une solution d'isolement politique, a-t-il ajouté. La Chine accueille mercredi des dirigeants de pays africains pour un sommet de coopération économique. Des dizaines de délégations et de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Pékin jusqu'à vendredi. Les présidents de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya ont notamment confirmé leur présence à ce rendez-vous diplomatique. L'Eswatini, ex-Swaziland et le seul des 54 pays africains a manqué à l'appel en raison de ses liens diplomatiques avec Taïwan que Pékin considère comme une partie de son territoire. L'Algérie a annoncé son adhésion à la nouvelle banque de développement des BRICS, le groupe des grands pays émergents, incluant la Chine et le Brésil, selon un communiqué du ministère des Finances publié samedi soir. L'adhésion de l'Algérie a été approuvée samedi par le conseil des gouverneurs de la banque, présidé par l'ancienne chef d'État brésilienne Dilma Rousseff, lors de la 9e réunion annuelle de cette instance au Cap en Afrique du Sud. Créée en 2015 par le groupe des BRICS, cette banque multilatérale de développement est conçue comme une alternative au FMI mis à la Banque mondiale.
VOA Afrique en direct de Washington.
Deux Palestiniens ont été tués ce dimanche dans le nord de la Cisjordanie occupée où l'armée israélienne poursuit pour le 5e jour consécutif une vaste opération lancée contre les groupes armés palestiniens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Depuis le lancement de ces raids israéliens, durant lesquels blindés et bulldozers ont détruit de nombreuses rues et réseaux électriques, d'eau et de télécommunications dans plusieurs camps de réfugiés, au moins 24 Palestiniens ont été tués, selon le ministère. Les groupes armés palestiniens ont indiqué qu'au moins 14 d'entre eux étaient des combattants. L'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir identifié les corps de 6 otages ramenés de Gaza en Israël, parmi lesquels 2 femmes et 4 hommes, dont un israélo-américain et un israélo-russe. 5 d'entre eux avaient été enlevés au festival de musique Technonova par les commandos du Hamas lors de l'attaque meurtrière du 7 octobre. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 97 sont toujours retenues à Gaza, selon l'armée. En Russie, la carcasse d'un hélicoptère de type Mi-8 porté disparu depuis samedi avec à son bord 22 personnes a été retrouvée ce dimanche, ainsi que 17 corps, a annoncé le ministère russe des situations d'urgence. L'hélicoptère Mi-8 avait disparu des radars samedi au Kamtchatka, où des accidents d'appareils souvent vétustes restent fréquents. Une enquête a été ouverte selon la branche régionale du comité d'enquête russe. Les circonstances de l'incident sont en train d'être établies, a-t-elle précisé dans un communiqué. Et puis la Pologne a célébré ce dimanche le 85e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale lors d'une cérémonie commémorative pour rappeler les premières attaques de l'Allemagne nazie. La cérémonie s'est tenue comme de coutume à Westerplatte sur la côte baltique de la Pologne où un cuirassé de l'Allemagne nazie avait bombardé un fort polonais il y a 85 ans jour pour jour. Selon la presse polonaise, des discussions sont en cours entre Varsovie et Berlin sur l'indemnisation financière des victimes encore vivante du conflit, la Pologne estime que jusqu'à 70 000 personnes pourraient en bénéficier. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est 24h sur 24 sur notre site web voafrique.com.
tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir, heureux de vous retrouver sur VOA Afrique. Bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manalakiza en votre compagnie. Ce soir, nous parlons du statut spécial de la ville sainte de Touba au Sénégal et de son harmonie entre modernité et tradition. Josène Morissin assure la réalisation et la production. Touba, la ville sainte du mauridisme, incarne une fusion unique entre modernité et tradition. Ce sanctuaire spirituel, tout en étant ancré dans des valeurs religieuses profondes, a su évoluer pour devenir un centre économique et culturel influent au Sénégal. Son autonomie spirituelle administrative en fait un modèle fascinant où la foi et la gouvernance se rencontrent, offrant des leçons précieuses sur la coexistence entre l'ancien et le nouveau. Aujourd'hui, nous explorons comment Touba continue de naviguer entre ces deux mondes tout en préservant son identité et son influence spirituelle. Le professeur Mohamed Mbodj de l'université de Manhattanville à New York est avec nous. Bonsoir, professeur Mbodj.
Bonsoir.
Vous êtes historien et spécialiste des religions. Comment Touba a-t-elle réussi à préserver son caractère sacré tout en s'adaptant aux défis de la modernité, notamment en termes de développement urbain et d'infrastructures?
Il y a trois pistes à considérer et dont la plus importante, c'est évidemment l'autorité du calife. Touba étant au départ un dara, donc une école fondée par le calife, qui donc en tant que fondateur en est le chef de village. Donc ce qui fait que le chef suprême de la communauté mouride est en même temps le chef de Touba, qui bien entendu n'est plus un village, c'est une grande ville, la deuxième ville probablement en nombre d'habitants au Sénégal. Mais étant donné que c'est le fondateur, la famille du fondateur, le représentant du fondateur qui est toujours là, donc c'est une autorité incontestée. Donc ce qui fait que il y a cette légitimité qui est très traditionnel d'ailleurs, le maître de terre, si on peut parler ainsi, qui a fondé son village et les autres sont venus le rejoindre, et donc il a autorité sur tous ceux qui sont venus le rejoindre. La deuxième piste qui fonde l'autonomie et la particularité de Touba et en même temps cette sorte de souplesse pour s'adapter, c'est le caractère de sa population. Sa population s'y est installée en fonction d'un idéal religieux, un idéal religieux qui a peuplé l'endroit, et avec cette population, des activités économiques se sont développées autour de cette population pour en faire donc un site urbain, disons régulier, où il y a des activités urbaines de services, de petites fabrications, etc. Donc, on peut dire que c'est une évolution tout à fait naturelle, d'ailleurs qu'on retrouve dans beaucoup d'agglomérations en Afrique et ailleurs dans le monde, ou d'un petit settlement, d'une petite installation, d'une petite colonie villageoise, agricole et spirituelle, elle s'est développée en grande ville. Mais la colonne vertébrale, c'est la spiritualité, l'adhésion à la confrérie, et donc, d'une certaine façon, c'est ce qui conditionne donc la spiritualité, mais en même temps l'autonomie et en même temps le fonctionnement de Touba. La troisième piste, c'est fondamentalement ce côté ésotérique. Touba est la terre promise. Touba est la porte d'entrée du paradis pour les mourides. Touba est la terre où leur confrérie s'est développée et a imposé sa marque, sinon même sa gloire. Et donc, les membres de la confrérie vont protéger cette gloire, cette force, par tous les moyens, y compris en essayant de maintenir ce qu'on peut appeler des structures sociales, des structures religieuses, voire politiques, qui se sont développées au départ. Donc ce sont ces structures qui vont ordonner l'espace, qui vont coordonner les activités économiques et autres dans cet espace et autour de cet espace. Et donc il y a une vision d'une sorte de société idéale, fondée par un maître idéal, peuplée par ses disciples qui cherchent un idéal, et cet idéal, c'est aussi la porte d'entrée pour ses disciples, pour le paradis. Donc c'est ce triptyque qui organise Touba après l'avoir fondé et qui fait que Touba fonctionne de façon très différente, disons, de ce qu'on peut appeler une ville normale, ordinaire, qui se serait développée dans le même temps, dans le même cadre et peut-être même dans les mêmes endroits. Ici, on a une ville religieuse qui s'est développée en capitale politique, commerciale et sociale, mais qui reste ancrée dans la domination de la famille maraboutique qui l'a fondée et qui reste ancrée dans la vision d'un futur, voire même d'un au-delà, à travers la spiritualité de la confrérie Mouré.
En quoi le statut juridique spécial de Touba au sein du Sénégal contribue-t-il à l'autonomie et à la gestion indépendante de la ville par l'ordre mouride?
Il y a deux sortes de choses à considérer. D'une part, l'ordre colonial, lorsqu'il s'est rendu compte que Cheikh Amadou Bamba n'était vraiment pas un fauteur de troupe, et au contraire, d'ailleurs, pouvait être utile dans un certain sens lorsqu'on collaborait avec lui. En faisant la paix avec lui et en le laissant développer donc son aura religieux, il a su contrôler les masses de ses adorateurs, de ses fidèles, qui à ce moment-là n'ont pas attaqué, ne se sont pas confrontés à l'ordre colonial. Au contraire, étaient devenus de ce qu'on peut appeler des colonisés modèles, entre guillemets, même si ça n'existe pas. Ils payent l'impôt, ils contribuent à la machine économique coloniale. Ils ne participent pas dans la vie politique de façon visible et en tout cas bruyante, etc. Donc il y a une sorte de service rendu qui fait que le pouvoir colonial a décidé effectivement de laisser la communauté en paix. Et tant que l'autorité centrale de la communauté, le calife, n'est pas contestée, cette autorité coloniale peut très bien converser, peut très bien collaborer avec cette autorité centrale, en lui laissant d'ailleurs le choix d'organiser la vie des adeptes de la confrérie qui se trouvent dans les parages, dans cet endroit précis. À l'indépendance, cette sorte de service réciproque entre l'État et maintenant indépendant et non plus colonial et la communauté mouride s'est perpétuée. Donc la communauté sert un tout petit peu de machine économique où le gouvernement sénégalais à l'indépendance peut présenter des programmes économiques, des programmes de développement rural, etc., etc. Présente une machine de mobilisation sociale lorsqu'il s'agit de mobiliser les gens pour la vaccination ou des choses aussi simples que ça. L'autorité de Touba pour faire pencher la balance, disons, dans une certaine mesure. Et donc, et d'autres éléments de ce genre qui font que, effectivement, cette autonomie va être respectée par le pouvoir indépendant. Cela ne va pas sans friction, bien entendu, parce que la souveraineté nationale devient une sorte de souveraineté frileuse dans les années 60 et est toujours débattue maintenant, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence. Là où s'arrête cette légitimité de l'État qui règne sur tout et où commence la capacité des individus, des citoyens, et en particulier des groupes de citoyens, et ici la confrérie Mouride, pour s'auto-administrer en dehors de ce qu'on peut appeler le cadre législatif, juridique, global, général, pose toujours débat. Mais étant donné que cela n'a pas encore créé des débordements, entre guillemets, des tensions vives, cette sorte de modus vivendi reste. Les membres de la confrérie sont convaincus que seule l'autorité du calife prévaut à Touba, autour de Touba, et que cette autorité est invincible ou en tout cas indéboulonnable, si je peux utiliser ce terme, parce que non seulement l'État lui fait confiance, mais aussi parce qu'il a été choisi par le destin, qu'il a été choisi par le père fondateur, Cheikh Amadou Bamba, et donc pourquoi changer? De l'autre côté, cette autonomie est aussi basée sur ce qu'on peut appeler une justification juridique que beaucoup de membres de la communauté agitent, que la ville de Touba, le territoire de Touba, fait l'objet de démembrement qu'on appelle un titre foncier, donc un titre de propriété. Un titre de propriété comme il en existe des millions dans tous les pays du monde, mais dont le propriétaire est le calife lui-même. Alors, le titre de propriété évolue, bien entendu, puisqu'il couvre des territoires beaucoup plus importants que certainement il ne l'était au départ. Ensuite, la notion de titre foncier a évolué pour englober l'idée qu'il y a une autonomie à l'intérieur du titre foncier. C'est un peu l'idéologie que lorsque ma maison m'appartient et j'ai un titre foncier, je peux faire ce que je veux chez moi. Je peux peindre les murs en jaune, je peux installer mes toilettes là où je veux. Donc, c'est une vision d'une liberté totale à l'intérieur d'un cadre géographique délimité par des frontières cadastrales. Et donc, la communauté pense qu'elle bénéficie de ça. La position du gouvernement sénégalais n'est pas aussi tranchée. Mais le gouvernement sénégalais a choisi de ne pas débattre de ce point de vue, étant donné qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Le gouvernement sénégalais ne va jamais utiliser le terme d'autonomie de Touba ou quelque chose comme ça, mais simplement va collaborer avec le calife pour que ce qui se passe à Touba entre dans le cadre général de ce qu'on peut appeler les lois et règlements votés par l'État du Sénégal et appliqués par l'État du Sénégal, qu'il y ait une entorse ici ou là, si c'est une entorse pour le bien ou disons si c'est un peu ce qu'on peut appeler le sens commun que cette entorse soit laissée, eh bien le gouvernement sénégalais regarde de l'autre côté et ne pose pas la question. Donc il y a une sorte de modus vivendi comme ça où on ne pose pas de questions, on ne débat de rien et on se met d'accord. Et lorsqu'il y a des crises, parce qu'il y a des crises, il y a des crises, par exemple je me souviens d'un cas où quelqu'un qui était accusé de détournement de fonds ou quelque chose comme ça était allé se réfugier en plein jour à Touba et avait et beaucoup de gens prétendaient que la justice régalienne sénégalaise, son bras ne s'étendrait pas à Touba, ce que le calife a démenti et en quelque sorte a dit que non, la justice sénégalaise s'étend bien à Touba, on peut bien être arrêté lorsqu'on commet un crime ailleurs et qu'on se réfugie à Touba. Plus dernièrement, il y a eu une sorte de conflit de compétences où ce qu'on peut appeler la police de la ville de Touba se sentait compétente pour tout, mais en réalité il y a eu un travail de fond pour faire en sorte que cette police peut-être règle les problèmes de circulation, d'établissement sur la voie publique, ce genre de choses, mais que la police nationale, la gendarmerie nationale et bien entendu l'armée peut-être exercent leur influence, leur autorité sur ce territoire, mais pas de façon ostentatoire, pas de façon extrêmement visible, mais néanmoins cette présence est là et n'est pas contestée, même s'il a été contesté, si elle a été contestée ou en tout cas disputée même. Actuellement cette autonomie est bien policée, disons-le, et fonctionne dans le cadre de l'État régalien sénégalais d'une manière générale.
Spécial de la ville sainte de Touba au Sénégal et son harmonie entre modernité et tradition, c'est notre sujet de ce soir. Nous sommes en ligne avec le professeur Mohamed Mbodj. Professeur Mbodj, comment le mouridisme maintient-il l'équilibre entre la fidélité aux traditions et l'adaptation aux réalités contemporaines, en particulier pour les jeunes générations de mourides?
Alors, le mouridisme utilise ce que l'ancien président du Sénégal, qui lui-même était un académicien, Ablaye Wade, a appelé le travaillisme mouride, un peu pour imiter, ou en tout cas pour nous rappeler les travaux qui étaient faits sur le travaillisme protestant au début du XXe siècle, pour expliquer pourquoi des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, etc., s'étaient développés plus rapidement que d'autres pays qui étaient restés, je ne sais pas, plus catholiques ou en tout cas quelque chose comme ça. Donc il y a bien une sorte d'explication. Et cette explication, c'est que le calife mouride, donc le mouride, vise à une autonomie économique, en principe par tous les moyens légaux. Ce qui fait que le mouride, en principe, préférera travailler plutôt, par exemple, que de mendier dans la rue. Pour le mouride, entre guillemets, comme le dit l'expression, il n'y a pas de saut métier. L'essentiel étant de gagner sa vie et d'être autonome par rapport à la sphère économique, de rendre ce qui est à César, de payer ses impôts, etc., 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 et ensuite d'être libre de ses actes, et en particulier d'être libre de suivre les directives du calife, maintenant qu'on est libéré de ce qu'on peut appeler la contrainte économique au départ. La deuxième chose qui est centrale dans la communauté mouride, et que quelqu'un, la dernière fois, je l'ai rappelé, il y a un administrateur français dans les années 50 qui avait caractérisé la façon de fonctionner du mouridisme sur le plan économique comme une banque, la banque mouride, lui Nekash, dans un rapport célèbre. Et où donc les membres de la confrérie mouride, s'ils ont besoin d'entreprendre, à moins qu'ils n'aient besoin de sommes extrêmement importantes, de l'ordre de plusieurs millions ou même de milliards, peuvent en fait trouver le capital autour d'eux, avec d'autres contributeurs mourides, soit par l'intermédiaire de prêts, par l'intermédiaire de plus de participation dans leurs activités, ou encore par ce qu'on peut appeler payer par avance, c'est-à-dire que les mourides riches financent les activités des mourides jeunes moins riches, qui eux-mêmes, lorsqu'ils seraient un peu plus âgés et un peu plus prospères, vont faire pareil pour d'autres mourides qui, à ce moment-là, se présenteraient à eux, disons, à la recherche d'un capital ou d'une activité. Lorsque les mourides s'installent dans un endroit, ils se soutiennent les uns les autres. Il y a, dans le même rapport que j'ai rappelé tout à l'heure, les nouveaux arrivants mourides peuvent trouver du travail, peuvent trouver femmes lorsqu'il s'agit de jeunes hommes dans la communauté, simplement par l'intermédiaire de la fréquentation de la communauté mouride locale. Donc une sorte de cercle de safety net, si on peut utiliser ce mot ici, c'est-à-dire un tissu social qui permet d'intégrer le nouvel arrivant, mais en même temps de lui procurer du travail, et même de le socialiser en lui procurant une famille ou en lui permettant d'établir une famille. Donc il y a ces mécanismes économiques qui marchent dans le mouridisme et qui maintenant sont étendus en dehors du territoire national, parce que ces mécanismes, évidemment, on peut voir comment ça peut marcher facilement dans de petites villes sénégalaises, mais maintenant ces communautés s'établissent dans des grandes villes, Milan, Paris, New York et ailleurs. Mais le même système continue à fonctionner, mais en s'adaptant. En s'adaptant parce que, d'une part, il y a un investissement très lourd au départ. Pour venir à New York ou pour s'établir à Milan, ce sont des milliers de dollars de frais de transport, etc., etc. Donc, il y a bien une sorte d'adaptation qui fait que ces circuits sont un peu plus lourds sur le plan financier, mais fonctionne encore d'une certaine façon. Et les jeunes émigrés mourides sont incorporés dans ces circuits que les mourides déjà installés et quelquefois prospères ont mis en place. Ça peut être la vente à la sauvette dans les rues ou sur les plages. Ça peut être la vente d'objets artisanaux, les masques, les pagnes, les tambours, les djembés, etc. Ça peut être même la collecte de produits agricoles sur les champs en Espagne ou en Italie. Donc il y a toute une filière où les nouveaux immigrants reconnaissent l'autorité d'un immigrant établi qui est capable de leur trouver du travail, ou en tout cas de les aider à trouver du travail, qui est capable de leur organiser un hébergement avec d'autres jeunes mourides ou même avec des familles mourides, etc., etc. Donc ce système marche et il est extrêmement souple et fonctionne très bien. Maintenant, la modernité, à l'heure où on entre dans l'intelligence artificielle ou autre, évidemment cette communauté mouride, surtout celle qui est expatriée, ses enfants sont éduqués et très bien éduqués, et donc ils il incorpore cette connaissance acquise par la deuxième, la troisième génération de ces immigrants mourides, sont maintenant incorporés dans ce qu'on peut appeler la perspective vers le futur de la communauté mouride. Ce qui fait qu'il y a plein d'établissements qui non seulement vont servir les besoins, je ne sais pas, en matière d'électronique, en matière de messagerie, etc. Et il y a des banques déguisées où on peut faire des remises d'argent sans passer par les banques ou même par les agences de remise de fonds agréées sur la place publique, Western Union, Wave, etc. Et ces jeunes éduqués aussi ont mis en place des websites, ont mis en place des programmes, ont mis en place des procédés qui utilisent donc ces techniques nouvelles, de l'informatique en particulier, et qui permettent à ce que des interventions qui peut-être il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans se faisaient face à face, maintenant peuvent se faire virtuellement. Donc les communautés mourides de plus en plus fonctionnent et ont adopté cette façon de fonctionner virtuellement lorsque ça aide à agrandir, à fortifier et à consolider la communauté mouride. L'éducation est centrale dans ce contexte et la fondation d'une université à Touba entre dans ce cadre-là. Ce n'est pas seulement une université où les étudiants vont passer leur temps à étudier de fond en comble les œuvres du cheikh, mais c'est une université régulière, normale, et où beaucoup de formations vont être dispensées à côté de, certainement, de ce que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'elles soient dispensées, donc la distribution, l'exégèse de la pensée du cheikh. Mais ce sont des universités qui, maintenant établies à Touba et aux alentours, vont aider à créer ces cadres, à éduquer ces cadres modernes, en partie, qui vont faire basculer la communauté mouride dans le 21e siècle. De l'extérieur, souvent, les gens ont cette approche que c'est une confrérie qui est dans le passé, qui n'avance pas, mais là, c'est qu'ils ne visitent. Ils n'ont pas visité Touba, ils n'ont pas regardé les sites internet mis en place par la confrérie autour de la mosquée, autour de la bibliothèque de Touba, autour de l'université de Touba, autour du nouvel hôpital de Touba, etc. Et ces instruments sont dans le cadre normal de la modernité actuelle et n'ont rien à envier, rien à envier avec l'approche de la modernité qu'on peut trouver dans l'État sénégalais ou dans le secteur privé sénégalais.
Touba reste un exemple vivant de l'équilibre entre tradition et modernité, démontrant que l'évolution ne nécessite pas le sacrifice des valeurs fondamentales. Son autonomie continue de renforcer son rôle central dans le paysage religieux et socio-économique du Sénégal. Alors que le monde change, Touba nous rappelle l'importance de rester fidèle à nos racines tout en embrassant l'avenir. S'achève notre édition de Dialogue des religions. Un grand merci au professeur Mohamed Mbodj pour sa grande contribution. Merci, professeur.
Merci et bonne journée.
Merci à vous, chers fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Eric Maniakiza vous souhaite une agréable soirée. À très bientôt.